Comment vivre dans l'abondance selon le plan divin? C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Alors, qu'est-ce que l'abondance selon la Bible? Ça désigne une grande quantité. Quand on parle d'abondance, ça veut dire qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup. S'il y a peu, ce n'est pas l'abondance, c'est la disette. Avoir une grande quantité. Avoir de la plénitude. En avoir d'une manière extraordinaire de partout, etc. Dans la Bible, l'abondance est souvent associée à la bénédiction de Dieu. Et j'ai remarqué d'ailleurs que depuis qu'on travaille sur notre thème de l'argent pour le mois de novembre, et d'ailleurs on va poursuivre en décembre, on ne vous l'a pas dit celle-là, voilà. Donc je vous la prends ce soir, on poursuit en décembre, il y a des tas d'explications que j'ai fournies à mes collaborateurs. En fait, comme on aura un dimanche de moins au mois de novembre, donc on n'arrivera pas à épuiser le programme. Et comme en décembre, c'est un mois qui est court, où on a moins de réunions, on n'arrivera pas. Donc novembre et décembre, on parle d'abondance, on parle d'argent. Ça va, vous supportez? Personne ne craque? Voilà. Et dans la Bible, c'est vrai que l'abondance est souvent associée à la bénédiction de Dieu qui donne à ses enfants plus que ce dont ils ont besoin. Non seulement Dieu pourvoit nos besoins, mais il nous donne en abondance. L'abondance n'est pas seulement matérielle, mais est aussi spirituelle, émotionnelle, relationnelle. Avoir des tas d'amis, des tas de relations, elle est généreuse. Et le résultat de la générosité du Seigneur, c'est que nous ayons une vie en abondance. Alors, je vais vous faire lever la main. Qui veut une vie abondante ce soir? Qui désire, qui veut en avoir? Bon, vous êtes quelques-uns, donc je crois que je peux continuer. Pas de problème. Voilà ce que nous dit l'évangile de Jean, chapitre 10. Alors, verset 10, s'il te plaît, ouais, mais que le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tu peux nous mettre que le 10, s'il te plaît, puis on va le lire tous ensemble. C'est Jésus qui nous parle. Le voleur ne vient que Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, nous dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà, ça, c'est le plan de Dieu. Autrement dit, s'ils ne sont pas dans l'abondance, c'est qu'il y a un problème. Pas forcément de notre part, mais c'est peut-être parce que Dieu ne fait pas son travail. Ça veut dire que Dieu n'est pas fidèle, que Dieu a trahi sa promesse. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me gêne un peu aux entournures, ça, parce que Dieu est un Dieu fidèle. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance n'est pas synonyme d'égoïsme ou d'avidité. Parfois, on a et on serre. Surtout pour ne pas donner à d'autres. Au contraire, elle est liée à la gratitude et au partage. Dieu nous donne en abondance pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Si vous avez beaucoup, c'est parce que Dieu veut que vous donniez beaucoup. Si vous avez beaucoup d'amour, c'est pour répandre de l'amour. Des fois, je vois des gens, ils ne sont pas très... Pas dans notre église. Parce que dans l'église, je crois que vous êtes tous parfaits, c'est incroyable. Ça fait 25 ans que je pense ça et je continue. Bon, des fois un peu plus que d'autres fois, d'accord. C'est vrai qu'on voit quelqu'un qui est chagrin, qui fait la tête. Il est mal dans sa peau. Des fois, je dis, il ne doit pas être aimé, lui. Parce que quand tu te sais aimer, tu as envie d'aimer les autres. C'est extraordinaire. Quand tu te sais aimer, on te dit tu es le plus beau, le plus merveilleux. Moi, je l'entends moins 100 fois par jour, que je suis le plus beau, le plus merveilleux. Pourquoi vous rigolez? C'est la vérité. Et quand on vous dit ça, vous le croyez tellement que vous le propagez autour de vous et vous avez envie de dire aux autres, tu es le plus beau, tu es le plus merveilleux. Tiens, tournez-vous vers votre camarade de chaise. Il y a des gens qui sont seuls. Vanessa, viens, viens ici au premier rang. Approche-toi de quelqu'un. Voilà. Tu es le plus beau, tu es le merveilleux. Dieu nous donne en abondance pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Bon, la récréation, c'est fini. Dieu nous donne en abondance pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Et Paul dira ceci à un moment donné aux chrétiens de Corinthe. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de générosité. Dieu nous donne pour que nous soyons généreux. Dieu fournit pour que nous puissions fournir. Dieu nous encourage pour que nous puissions encourager. Dieu nous bénit pour que nous puissions bénir. Dieu nous aime pour que nous puissions aimer. Et Dieu veut nous rendre heureux pour que nous rendions les autres heureux. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est heureux par la présence de Dieu. Alors, comment vivre dans l'abondance selon la parole du Seigneur ? Et on va voir que la Bible nous révèle plusieurs secrets pour que nous vivions dans l'abondance selon le plan de Dieu. Alors, je vous donne 3 secrets, je vais les lister, puis après on va les travailler. D'abord, nous devons reconnaître que tout vient de Dieu. C'est facile à retenir. On le dit ensemble, tout vient de Dieu. Deuxièmement, nous devons obéir à des principes financiers bibliques. Je dois obéir à des principes financiers bibliques. On le dit ensemble, je dois obéir aux principes financiers bibliques. Et troisièmement, je dois croire dans les promesses de Dieu. Je dois croire dans les promesses de Dieu. Alors, je redis, premièrement, reconnaître que tout vient de Dieu. Deuxièmement, obéir aux principes financiers qui viennent de Dieu. Et troisièmement, croire aux promesses de Dieu. Alors, d'abord, reconnaître que tout vient de Dieu. Pas facile. C'est mon travail. Mon âme, réjouis-toi, repose-toi, dors, sois en paix. Et puis, mange, bois. Avez-vous déjà vu une âme manger et boire? Et l'homme était là dans cette parabole que Jésus va citer pour montrer la cupidité et l'avarice, faisant étalage de ce qu'il avait acquis par ses propres sources, par ses propres forces. La première clé pour vivre dans l'abondance est de reconnaître que tout ce que nous avons vient de Dieu et que nous ne sommes que des gérants de ses biens. Dans le fond, si on se dit « rien ne m'appartient, tout appartient au Seigneur, je n'en suis que gérant », alors, je vous soupçonne de cet aplomb. Gérald, puisque tes biens appartiennent au Seigneur, veux-tu m'en donner la moitié ? Mais non, j'en suis le gérant, donc je les gère. Et parce que je les gère, je les dilapide pas n'importe comment, surtout sachant que si je vous en donne la moitié, très certainement que vous allez perdre votre moitié, moi je vais perdre la moitié, et avant que je retrouve en entier, ben ça sera long. Curieusement, c'est étonnant cela, je me suis rendu compte que quand on s'agrippe à ce que nous avons, c'est le meilleur moyen de le perdre. Et quand on est généreux pour l'œuvre de Dieu, à l'égard des autres, quand on est généreux, alors nous vivons dans l'abondance. Oui, mais je ne veux pas parce que je vais perdre. Si tu perds un peu, tu retrouveras beaucoup. Et ne croyons pas que l'abondance vient de notre avarice. La Bible dit dans le psaume 4, verset 1, « À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous donne et nous consacrons tous nos biens pour sa gloire. » Premièrement, reconnaître que tout vient de Dieu. Deuxièmement, je vous avais dit quoi ? Rappelez-moi. Obéir aux principes financiers de Dieu. Dieu a établi des principes dans sa parole. Des principes que nous devons suivre. Nous allons les voir dans quelques instants. Et parmi ces principes, alors j'en ai listé 2, 4, 6, j'en ai listé 6. Premièrement, un travail honnête. Parce que truander pour s'enrichir n'est pas honnête. Il nous est demandé d'avoir un travail honnête. Deuxièmement, apprendre à gérer. Gérer, ça s'apprend. Avoir une gestion qui soit fidèle. Deuxièmement. Troisièmement, alors là, je vais, vous êtes assis, il n'y a pas de problème. Apprendre à donner la dîme. On le savait qu'il allait nous parler de ça. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est écrit dans la parole de Dieu. En plus, ce qui est très fort, c'est qu'on en parlera dans quelques semaines. Savez-vous que la dîme n'est pas un principe du Nouveau Testament ? C'est un principe de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on donnait la dîme. C'est-à-dire, alors, vous allez apprendre à calculer. La dîme, c'est le dixième. Dîme, hein, c'est le dixième. Si vous gagnez 10 000 euros, le dixième, c'est combien ? Tout le monde est d'accord ? Demande à ton voisin s'il a bien calculé, s'il a... 1 000 euros. Le principe était donné dans l'Ancien Testament. Si vous voulez, c'était comme un impôt qui était versé par Israël pour le temple, pour la pratique du sacrifice, etc. Donc, c'était un principe de l'Ancien Testament. De dire oui, mais dans le Nouveau, ce n'est pas la dîme, c'est la générosité. Sa générosité. Ça veut dire que la dîme, si vous voulez, c'est le calcul de base. Et pour le Nouveau Testament, tu commences à donner quand tu donnes au-delà de la dîme. Ouais, mais alors là, je ne m'en sortirai jamais. Parce que je suis en train de calculer. Je gagne 10 000 euros par mois. Avec ça, c'est impossible que je m'en sorte. Tout le monde le sait. Je ne sais pas. Je fabule. Donc, tu me demandes d'être généreux. Alors déjà, sur les 10 000, j'en donne 1 000. Tu me demandes d'être généreux. Comment je vais faire ? Sois généreux. Ne te pose pas le problème de savoir comment tu vas faire. Parce qu'une chose est certaine. Bon, vous savez que je suis presque centenaire. Hein, dans quelques jours, j'aurai 100 ans. Donc, encore un petit peu. Je me suis rendu compte que jamais Dieu, vous pouvez le coincer. Jamais, jamais, jamais. Il y a eu des fois où on se disait, on n'est pas fou, là. On n'était pas un peu fou, là, de t'en donner. Et on se rendait compte qu'on ne perdait jamais, jamais, jamais. Quand on est parti à l'Institut biblique, Hélène et moi, nous étions jeunes mariés, on s'est mariés le 31 août, on est parti en voyage de noces. On avait des amis qui nous ont offert un super voyage de noces en Méditerranée. Ouais, c'était le top, quoi. Aux Ambiers, sur les îles, etc. Je vous fais rêver, je continue. Et puis, bon, on est revenu de voyage de noces, on est parti à l'Institut biblique. Et comme je vous avais dit, donc, Dieu a pourvu, franchement, il a pourvu. Ce n'était pas toujours très simple. On vivait dans une petite chambre, dans le château de Bièvre, où avait vécu Victor Hugo. Alors, en se promenant dans les couloirs, on entendait le fantôme de Victor Hugo qui clamait ses poésies. Et quand on est sorti de l'école biblique, on n'avait pas une thune, pas un sou. Il fallait qu'on installe la maison. Hélène attendait notre premier, Jean-Samuel, qui devait arriver quelques mois plus tard. On s'est retrouvés dans un petit studio, tous les deux. Bon, on était heureux, tranquille. Le soir, quand on dépliait le canapé, il fallait mettre les coussins sous le canapé, parce que sinon on n'arrivait pas à tourner autour. Et puis quand le petit est arrivé, on l'enfermait dans la salle de bain, parce que quand il pleurait la nuit, on n'arrivait pas à dormir. D'ailleurs, à cette époque-là, j'étais tellement crevé en entendant les pleurs de l'enfant que je suis parti en déplacement 15 jours. J'ai dormi tout le temps. Je ne me suis pas embêté, etc. Enfin, c'était comme ça. Et on s'est rendu compte que Dieu, bien qu'on ait l'impression d'avoir tout perdu, que Dieu a pourvu en abondance, au point que tout ce qu'on avait donné, on l'a retrouvé. Et Dieu a donné en abondance. Et on ne s'est pas appauvri. Au contraire, en l'espace de quelques temps, on a remonté la maison, enfin, notre foyer, si vous voulez, et Dieu a pourvu en abondance. Je crois qu'avec Dieu, on ne perd jamais. Ne partez pas du principe que si vous donnez pour l'œuvre de Dieu, vous allez perdre. Mais il y a des promesses qui sont extraordinaires. La dîme et les offrandes. Parce que les offrandes, c'est aussi ce que nous donnons pour l'œuvre du Seigneur. Quelqu'un qui a besoin, quelqu'un qui se trouve dans la difficulté, quelqu'un que l'on doit assister, etc. Apprendre à faire acte de générosité. Également, un secret pour obéir aux principes financiers de Dieu, c'est d'apprendre à être content. Alors, à plusieurs reprises, on l'a cité, cela. Ça fait quelques années que j'en parle aussi de cela. Je connais un bon bouquin qui s'appelle « Contentement est un don de Dieu ». Apprendre à être content. Ce n'est pas évident d'apprendre à être content, parce qu'on apprend plutôt à être mécontent. Apprendre à être content. Arrêter de se plaindre et de gémir, mais apprendre à être content. J'ai appris à être content, nous disait l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 4. Et puis également, être généreux. Savoir gérer, c'est aussi faire preuve de générosité. Pas faire preuve d'avarice, pas faire preuve de cupidité, mais être généreux. Et quand on suit ces principes, on a la bénédiction de Dieu sur notre vie. Alors, je vous ai dit d'abord, reconnaître que tout vient de Dieu. Là, vous ne dites pas amen, là ? Je recommence. Reconnaître que tout vient de Dieu. Deuxièmement, obéir aux principes financiers. Troisièmement, croire aux promesses de Dieu. C'est la troisième clé pour vivre dans l'abondance et de croire aux promesses. C'est de croire que Dieu fait des promesses dans sa parole. Dieu est fidèle et il ne ment jamais, jamais. Il a promis de pourvoir à tous nos besoins selon la richesse de sa gloire. Il a promis de nous donner ce qui contribue à notre bien-être. Pourquoi avoir peur de manquer ? Pourquoi ? Jésus disait : regardez les oiseaux du ciel. Dieu pourvoit à leurs besoins. Et c'est vrai, quand on entend les oiseaux piou, 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 en train de chanter, toute la tribu des oiseaux chante, tout ça, c'est magnifique. Hein. On a des bambous à la maison et on a des oiseaux qui ont... C'est quoi ces bestioles-là ? Des passereaux, je crois. Ils arrivent tous ensemble. Le soir, les tourneaux, c'est ça. Le soir, à la tombée de la nuit, vous les voyez, ils sont là en train de tourner, ils tournent. Puis ils passent par dizaines et dizaines, ils passent au-dessus, hop, ils repassent, ils s'en vont, regarde s'il n'y a pas un prédateur qui est là, puis brusquement, ils foncent tous, enfin une partie, puis après ils s'en vont, etc. Puis alors, quand on les trouve dans nos arbres fruitiers, on est content, ça fait plaisir, etc. Parce que là, il y a de l'abondance et ils se nourrissent de l'abondance des rénaux. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Pour les oiseaux, les lys des champs, nous dira le Seigneur Jésus. Il a promis de nous donner tout ce qui contribue à notre bien-être. Il a promis de nous faire prospérer et d'avoir des projets de paix et d'amour pour nous. Tu peux nous mettre Jérémie, chapitre 29, verset 11, s'il te plaît. Jérémie 29, 11. C'est un très, très, très beau verset. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce texte était donné à un peuple qui était en guerre par la voix de Jérémie. Les Hébreux avaient peur, les Juifs avaient peur des Assyriens et ils avaient peur de ne plus avoir d'avenir, d'être détruits, que leur nation soit détruite. Et Dieu va avoir ce texte extraordinaire. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et si on le lisait pour nous-mêmes ? « Tu connais les projets que tu as formés sur moi, Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. » Ça vous dit si on le lit comme ça ? Est-ce qu'on peut le faire ensemble ? « Car tu connais les projets que tu as formés sur moi, Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. » Notre avenir n'est pas fini. Notre avenir n'est pas bouché. Mais nous avons une espérance qui est là et qui nous attend. De devoir avoir confiance à Dieu et en Dieu et déclarer ses promesses sur notre vie. Je termine simplement par ces quelques paroles. Vivre dans l'espérance, dans l'abondance, n'est pas un rêve inaccessible, mais c'est une réalité possible pour tous ceux qui croient en Dieu et qui croient dans ses promesses. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas aléatoire comme la loterie nationale ou autre chose, ou comme l'auto. Ce n'est pas aléatoire comme les jeux télévisés où vous envoyez un SMS. Dieu est un Dieu d'abondance qui veut nous bénir au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Un avenir, une espérance de l'abondance. Dieu nous invite à entrer dans son royaume où il y a la justice, la paix et la joie. Il nous invite à être des canaux de bénédiction, des canaux de sa grâce, pour que son abondance se répande autour de nous. C'est d'accord que l'on ferme nos yeux, que l'on prie, et je vais lancer un appel pour ceux qui ont besoin d'y répondre. Merci Seigneur, parce que tu as pour nous des projets extraordinaires, qui sont certainement beaucoup plus grands que ce que nous pouvons imaginer ou penser, parce qu'ils sont dictés par ton amour, par ta grâce, par ta présence. Seigneur, merci parce que ce soir, tu veux bénir. Et Seigneur, ton intention est de t'approcher de nous, de chacun de nous, et de faire grâce. Tu connais notre auditoire, tu connais les craintes qu'il peut y avoir, parfois les incertitudes, Seigneur, peut-être les manques d'espérance, mais nous savons, Seigneur, que tu veux raviver le courage et faire quelque chose de merveilleux ce soir dans la vie de plusieurs, au nom de Jésus. Amen.